Je vous l'expliquais en titre, le candidat de la première circonscription monégasque qui a annulé ce week-end sa participation à notre débat prévu ce midi avec Maïna Sage. Nous lui avons proposé d'autres dates pour s'exprimer sur notre antenne, il ne l'a pas souhaité non plus. Nous tiendrons donc ce premier entretien avec Maïna Sage uniquement dans une version légèrement remaniée par rapport à ce qui était prévu évidemment. C'est donc un exercice d'interview politique que d'entre-deux-tours que va se livrer la candidate du Tapoula sur la première circonscription. Bonjour Maïna Sage.
Bonjour Antoine, bonjour à toute l'équipe de Radio 1 et puis bien sûr à tous ceux qui nous écoutent ce matin, en particulier ceux qui sont dans la circonscription numéro 1, Papeete, Pire, Aroué, Mouria, Meyol, et Toamoutou, les îles Gambier et les îles Marquises.
Alors justement Maïna Sage, puisque vous en parlez, comment est-ce que c'est possible de représenter une circonscription aussi disparate avec des administrés, enfin en tout cas des électeurs qui sont dans les Marquises, d'autres qui sont sur l'île de Tahiti?
Comme vous pouvez l'imaginer, avec bien sûr toutes les difficultés que cela comporte, hein, c'est la plus grande circonscription géographiquement parlant de la République. Donc, il n'est pas toujours évident de pouvoir se rendre partout. J'essaye de pouvoir visiter un maximum d'îles le plus souvent possible. J'ai fait plusieurs missions aux Marquises ces 2-3 dernières années. Et dans le cadre de ma campagne à 2 reprises, les Toamoutou également, bon, il y a une cinquantaine d'îles, c'est pas évident. Mais nous y arrivons grâce surtout, et je tiens à les remercier, à tous nos relais, les maires, les élus de l'Assemblée, nos présidents de comité Tapoura, nos sympathisants, tous ceux qui nous appellent aussi, hein, les bonnes volontés, qui ont envie de participer, contribuer à cette campagne.
C'est-à-dire que vous pouvez être sollicité et vous recevrez les sollicitations de personnes qui sont originaires des Toamoutou, des Marquises, lorsque si vous êtes élu député.
Très clairement, pendant la campagne, j'ai reçu des appels de personnes de la société civile qui avaient envie de contribuer, qui avaient envie de pouvoir aussi distribuer nos tracts, donc on l'a fait bien volontiers. Ça a permis de créer des amitiés en plus de nos relais officiels. Et évidemment que notre rôle de député, c'est d'être à l'écoute de tous, parce que vous savez, c'est vrai qu'on travaille à 20 000 km de la Polynésie, mais on est au service de tous, à la fois du pays, sur les gros projets que porte la Polynésie, mais aussi des communes. Vous savez que la loi qui légifère pour les communes, le fameux CGCT, hein, Code Général des Collectivités Territoriales, est une loi nationale qui ne peut être modifiée qu'au niveau national, donc on est quand même très proche des communes. On s'intéresse aussi aux entreprises, parce qu'il y a des dispositifs nationaux d'aide à ces entreprises, aide à l'investissement notamment, plus couramment appelée défiscalisation. Bref, il y a aussi la question de la réserve pour les associations. Alors, ça nous amène quand même à intervenir de façon très proche aussi de ces situations très disparates, comme vous le disiez.
Alors, on va entrer dans ces sujets très spécifiques. Juste avant cela, vous avez suivi les résultats du premier tour au niveau national ce week-end, avec cette large victoire du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous y attendiez à cette vague, en tout cas, du mouvement En Marche?
Oui, je pense qu'on a senti cette vague arriver d'ores et déjà pendant la campagne des présidentielles. Il y a eu de nombreux sondages qui nous indiquaient, avant même le premier tour, qu'il y avait une volonté de renouvellement très franc demandé aujourd'hui par les Français, et d'une volonté aussi de sortir peut-être de ces clivages politiques classiques gauche-droite. Et c'est ce message, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, c'est ce message que j'ai aussi entendu de la population lors des élections présidentielles. Donc j'ai pas été très surprise de ce premier tour national.
Vous-même, vous siégerez auprès d'En Marche si vous êtes élu député?
Alors c'est un choix du parti. Vous savez que j'ai siégé 3 ans dans l'UDI, et nous avons été dans une constructive, on a su travailler avec la majorité présidentielle. Nous attendions effectivement de voir comment se cartographiait entre guillemets l'Assemblée. Vous savez qu'il y aurait une large majorité absolue normalement qui se préfigure pour la majorité présidentielle. Depuis le début de notre campagne, nous sommes le Tapoura s'est positionné en faveur d'un soutien à la majorité présidentielle. Voilà, il y a un souhait de venir relayer l'action du président Macron, parce que en plus nous avons reçu son soutien en faveur de l'accord de l'Élysée. Moi, c'est ce qui m'importe, c'est la programmation des 5 prochaines années. C'est la feuille de route, finalement, à la fois du pays, mais aussi des parlementaires. Donc, on apportera tout notre soutien à la majorité présidentielle. Alors, c'est comme ça que je le conçois pour ce prochain mandat.
Et vous n'aviez pas imaginé rester auprès de l'UDI, qui était pourtant allié aux Républicains, qui était votre soutien à la présidentielle.
L'un n'empêche pas l'autre. Vous avez vu, le président Macron a lui-même spécifié qu'il était tout à fait possible aujourd'hui de figurer dans des groupes sans être un candidat République en marche, tout en soutenant la majorité présidentielle. Et j'ai beaucoup de collègues au sein de l'UDI qui le font. L'UDI s'est pas encore complètement positionné, il le fera à l'issue du deuxième tour, mais rien n'empêche à l'UDI de faire partie des formations de la majorité présidentielle demain.
Est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on est un député polynésien, d'aller, pour reprendre l'expression de Gaston Flos, là où l'herbe est verte, c'est-à-dire d'aller avec le pouvoir?
Je viens de vous le dire, j'ai siégé 3 ans dans l'opposition, donc j'ai pas siégé au PS, ça ne nous a pas empêché de travailler très bien avec le PS, dans le respect de nos différences politiques et de nos lignes politiques. Il y a eu des dossiers sur lesquels nous nous sommes entendus, dans l'intérêt général des Français et dans l'intérêt général des Polynésiens. Il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas forcément soutenu la gauche, parce que ça ne correspondait pas forcément à ce que je pensais être le mieux pour l'intérêt général. Donc je ne suis pas du tout du monde de dire qu'il faut absolument être d'un bord plus que d'un autre pour obtenir des résultats. On l'a prouvé ces 3 dernières années, on a siégé dans l'opposition, dans une opposition constructive, mais nous avons su travailler l'écoute et de l'État et de nos collègues, et au-delà même de nos collègues, de tout un réseau à Paris, avec bien sûr mes collègues, députés, notamment Jean-Paul Touaïva, mais aussi nos sénateurs, parce que nous sommes inscrits aujourd'hui dans une démarche peut-être plus constructive d'un partenariat rénové avec l'État, un partenariat responsable, où on demande le respect de notre statut, de notre autonomie, mais aussi de la garantie de la solidarité de l'État sur les sujets les plus importants et les plus essentiels pour la Polynésie.
Alors Maïla Sarge, on va rentrer un peu dans le détail de votre programme et de celui du Tapura. Sur le statut de la Polynésie, évidemment, vous êtes favorable au maintien de l'autonomie avec tout de même une réforme statutaire. Sur quoi est-ce qu'elle va porter cette réforme ?
Il n'y a pas de secret. Cette réforme statutaire faisait partie de mon programme de 2014. Elle est aboutie. Sachez que nous avons avancé sur une 20aine de points avec l'État. Ce texte est dans les starting blocks. Nous avons effectivement des réformes majeures à l'intérieur de ce statut qui doivent permettre de le moderniser, de le clarifier. Vous savez, c'était en 2004 une évolution importante, puisqu'on a commencé à mettre en place des lois de pays, et on s'est rendu compte, par exemple, sur ce point-là, qu'il y avait des difficultés dans la mise en œuvre. Si quelqu'un attaque un de nos textes, ces textes sont suspensifs et ces recours sont suspensifs. Voilà un vrai souci que nous avons sur nos lois de pays. Donc nous visons une modification de notre statut qui va lever cette incertitude, qui va aussi garantir que la réponse des juridictions soit plus rapide, pour qu'on évite des blocages systématiques des lois de pays à mettre en œuvre. Alors, voilà un exemple. Il y a aussi une clarification sur le rôle des communes. Vous savez que les communes souhaitent pouvoir exercer certaines compétences, mettre en œuvre aussi des actions qui leur sont propres, ce que je comprends. Vous savez, la taille de ma circonscription m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Quand vous êtes aux Marquises et qu'il faut attendre parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour une petite modification banale, je dirais d'infrastructure, je peux comprendre qu'à un moment on souhaite avoir un aménagement de ses compétences pour simplement être plus efficace. Voilà, tout ce qui permettra de rendre le service public plus efficace et un service public de proximité, pour moi ce sont des solutions de bon sens. Ça fait partie de ce projet de réforme aussi du statut, à la fois sur les aides économiques mais aussi sur la fiscalité des communes. Alors, qui est très attendue.
Pour revenir un peu sur cette question plus générale du statut, je vais me faire un peu votre contradicteur. Qu'est-ce qui ne vous va pas dans le statut de pays associé qui est proposé par le Tahura ou même par l'accession à l'indépendance telle qu'elle est proposée par le Tavigny?
Vous savez, c'est comme si vous me disiez, mais pourquoi changer de voiture alors que c'est juste une petite réparation peut-être à faire. Voilà, c'est exactement s'il faut arriver à comparer les deux, vous dire qu'il y a une nette différence entre le projet de modernisation de notre statut qui vise simplement à effectuer des petites réparations, mais qui permettront à notre statut de mieux fonctionner, que de tout simplement tout jeter et partir dans une évolution, une surenchère institutionnelle.
Bien sûr,
où là, on bouscule les institutions.
Sans parler de comparaison entre le toilettage du statut et une évolution statutaire comme celle qui mènerait au pays associé. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans le statut de pays associé tel qu'il est défendu par le Tahrir aujourd'hui?
Si vous voulez, pour nous, c'est une vraie surenchère. C'est-à-dire qu'on ne pose pas les choses. On prévoit une simple évolution institutionnelle avec des compétences plus larges, alors que nous ne sommes même pas aujourd'hui capables d'exercer la totalité de ces compétences. Donc, pour des raisons très simples et très évidentes de bon sens, il est évident pour nous que demain, être un simple pays associé pour récupérer certaines compétences, pour avoir le plaisir de les exercer alors qu'on ne sait pas comment on va les financer, nous paraît être une grave erreur. Mettons déjà en œuvre le statut de 2004, qui nous paraît très bien, avec des compétences certes à parfois préciser, et ce statut nous paraît largement suffisant pour pouvoir demain correspondre à cette évolution de la Polynésie que nous souhaitons, c'est-à-dire une plus grande autonomie d'abord économique. Notre objectif, il est d'abord là. Je dirais que c'est pas prioritaire, tout simplement.
Alors, je parle d'idéologie, hein, Maïna Sage. Est-ce que vous pensez que la Polynésie sera toujours dépendante ou rattachée à la France? Et est-ce que si la Polynésie française se développe un jour économiquement assez, est-ce que vous pouvez imaginer d'autres situations telles qu'une accession à l'indépendance, notamment?
Moi, j'ai des amis qui sont à la fois indépendantistes, d'autres autonomistes, maintenant d'autres plus autonomistes que d'autres. Je trouve qu'il faut laisser ce débat. C'est la liberté de penser des uns et des autres. Par contre, ce qui compte pour moi, en attendant que les gens réfléchissent à si l'on doit être indépendant ou pas, c'est la situation des familles aujourd'hui. J'ai un regard très pragmatique sur la politique. Ce qui compte, c'est qu'on soit efficace. Et je sais que le partenariat avec l'État est fondamental pour que notre pays avance. Nous avons notre autonomie sur le plan politique, mais nous ne l'avons pas sur le plan économique. Mon seul objectif aujourd'hui, c'est qu'on soit capable de mieux développer cette autonomie, d'abord économique, et qui sera au profit de l'ensemble des Polynésiens. On a un besoin de rééquilibrage. C'est d'une évidence aujourd'hui que tout le monde a besoin de venir à Papeete pour maximiser ses chances d'emploi ou de création d'entreprise. Il faut se poser les bonnes questions et se demander pourquoi. Et surtout apporter des réponses pour voir de quelle manière nous pouvons, par nos programmations politiques, par l'action publique, peut-être rééquilibrer ce développement en faveur des archipels. C'est vraiment le cœur de notre programme. C'est aussi le cœur de cet accord de l'Élysée qui vise à finalement définir un nouveau cap de croissance pour la Polynésie. Un cap de croissance qui est basé aussi sur cette autonomie économique d'abord. Est-ce que demain on sera indépendant? Je dirais que le débat restera toujours ouvert parce que les Polynésiens le souhaitent. Les Polynésiens s'expriment par les urnes et loin de nous l'idée de vouloir éviter ce sujet. Moi, je suis toujours ouverte au débat. Je penserais sincèrement qu'aujourd'hui, il est nécessaire de garder ce partenariat qui nous est favorable et qu'il faut développer. En tout cas, c'est ce que je défends.
Alors, vous avez parlé à l'instant de l'accord de Papeete. Est-ce que vous savez déjà comment vous allez faire passer son contenu? Comment est-ce que vous allez, est-ce que vous avez déjà commencé d'ailleurs à en parler à l'équipe? Je parle au niveau du Tapura et donc évidemment du président Édouard Fritch. Est-ce que vous avez déjà commencé à le faire passer auprès de la nouvelle équipe au gouvernement d'Emmanuel Macron, pardon?
Mais bien plus que ça, ce document a été travaillé donc avec l'État depuis, je dirais, le passage du président Hollande, c'est-à-dire ça fait plus d'un an. Depuis février 2016, il y a commencé à avoir des échanges, nous y avons contribué en tant que parlementaires, les sénateurs, les députés ont suivi ces travaux, les ont amendés, les ministres également. Tout ce travail a été consigné dans une première version et dans une seconde, puis une troisième, plus voilà. Ça a été un travail affiné entre l'État et la Polynésie. Et c'est ce travail qui a été soumis à la fois aux équipes du président Hollande, mais aussi aux équipes de la droite à l'époque. Hein, et donc, c'est ce qui nous avait permis d'avoir l'accord aussi de la droite,
à l'époque,
qui est très important pour nous pour aujourd'hui, ce qui nous donne une grande confiance en sa réalisation. Troisième chose très importante, le CESC local qui est quand même l'émanation de la société civile, a voté à l'unanimité en faveur de ce texte. Et avant même le premier tour, moi c'est ce qui m'a touché, l'actuel président Hollande, alors candidat, s'était déclaré dans les journaux locaux qu'il était favorable et qu'il avait reconnu que cet accord était une très bonne base de travail pour mettre en œuvre un partenariat rénové avec la Polynésie. Donc, vous comprenez bien que pour nous, vous savez, nous sommes déjà dans des prises de rendez-vous. Le président Édouard Fritch est parti à Paris le lendemain de l'élection du président Macron pour rencontrer ses équipes, pour regarder de près tout ce qui pouvait être mis en œuvre dès cette année, de pouvoir planifier la programmation de cet accord. De la même manière, nous avons commencé à fixer des rendez-vous pour la semaine prochaine, hein, parce que si nous sommes élus samedi, nous partons dès dimanche, et nous sommes déjà en phase de programmation de rendez-vous qui vont nous permettre aussi de préciser les points les plus prioritaires pour la loi de finances de 2018.
On rappelle juste un peu le calendrier.
Donc on n'est pas sur.
Il faut faire passer à l'Assemblée d'abord, hein, c'est ça.
Voilà. Donc on n'est pas sur une initiation au document. Loin de là, les équipes de l'État, l'équipe Macron est déjà très fortement impliquée sur ce dossier. Et bien sûr, nous attendons la fin des élections parce que c'est quand même un dossier très important. Pour avoir recueillir l'avis de la Polynésie française et à l'Assemblée de Polynésie, qui va nous permettre d'enrichir ces propositions et nos négociations à Paris.
Alors justement, Maïna Sage, parlons des dossiers économiques que vous pourriez porter dans votre mandat si vous étiez élu député. La défiscalisation a été prolongée jusqu'en 2025. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il faut aller plus loin selon vous?
Vous savez, lorsqu'on a défendu cette prorogation, parce que ça devait être supprimé en 2017, hein, je tiens à le souligner, ça a été un travail d'équipe avec les députés, notamment calédoniens, je pense à mon collègue Philippe Gomez, bien sûr à Jean-Paul Touahivin, avec également Daniel Gibbs, actuel président de Saint-Martin. C'était un travail d'équipe avec Victorin Lurel. On a été nombreux pendant 2 ans à travailler au report. Le choix était porté sur 2020, faut le savoir. Puis on avait obtenu 2022 en commission et on s'est battu pour qu'il y ait une plus grande visibilité. C'était l'objectif de l'amener à 2025. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que au niveau européen, il y a des décisions importantes qui doivent être prises à partir de 2020 pour les DOM. C'est ce qui a aussi fait que ce report de défiscalisation s'est arrêté à 2020 pour les DOM. Bon. Pour nous, pour apporter un peu plus de visibilité, on est allé à 2025. Cela n'empêche pas 2 choses. C'est que nous travaillons à la fois sur une simplification des procédures, en délocalisant la décision au niveau local, pour la ramener au niveau local pour les petits dossiers, si
sur
vous voulez.
Sur la défiscalisation nationale. Hein.
Sur la défiscalisation nationale. Et puis, la deuxième chose, c'est de pouvoir également réfléchir à des solutions annexes. L'aide à l'investissement n'est pas tout en soi. Il peut y avoir différentes formes de portage. Ça peut être aussi des fonds de garantie, ça peut être aussi des fonds d'investissement. Vous avez vu la mise en œuvre de la BPI qui a été déployée dans les DOM. Il y a aussi des choses à retoucher, parce que dans les DOM, ça a été un petit peu difficile à être mise en œuvre. Pour nous également, bon, maintenant c'est en place depuis 1 an. Nous allons faire le bilan aussi de ces évolutions. On n'arrête jamais, si vous voulez, hein. C'est pas parce qu'on a réussi quelque chose qu'on s'arrête là. Non, on continue en permanence à faire évoluer les choses. Sachez que pour la défiscalisation, notre grande priorité reste la délocalisation de la décision pour aller plus vite, tout simplement.
Votre position, Maïna Sage, sur l'indexation des fonctionnaires d'État outre-mer?
Alors, depuis 2 ans, nous avons entamé des démarches avec la fonction publique. Nous avons aussi travaillé, bien sûr, avec les syndicats locaux pour proposer une solution de retraite complémentaire. C'est pas évident. J'ai bon espoir, puisque notre ministre de l'Outre-mer, j'espère qu'elle le restera, Annick Girardin, qui est de Saint-Pierre-et-Miquelon, quelqu'un qu'on connaît bien, ancienne députée, c'est quelqu'un de très ouvert, qui a eu la chance d'exercer aussi sur un portefeuille autre que celui de l'Outre-mer. Elle était ministre de la fonction publique. Donc on a travaillé avec elle pendant presque 1 an, avec mes équipes, pour à la fois régler ces problèmes davantage que peuvent avoir nos que n'ont pas nos fonctionnaires polynésiens lorsqu'ils servent l'État en France, en hexagonal, mais aussi pour régler ces questions de CIMM, mais aussi pour parler de l'ITR. Et la solution qui est envisagée, c'est de mettre en œuvre une retraite complémentaire qui permettrait de venir compenser cette perte. Donc c'est un dossier que l'on souhaite bien sûr poursuivre avec elle. Et le fait qu'elle soit ministre de l'Outre-mer me conforte dans les solutions possibles à cette mise en œuvre. Parce que je vous rappelle qu'en 2008, quand ça a été fait, c'était l'engagement des signataires avec les syndicats. Et donc, notamment de l'ancien ministre Yves Jégo, et engagement qui n'a pas été tenu par l'État.
Donc ça fait partie des dossiers, en tout cas, de votre mandature si vous êtes élu.
Si nous sommes élus avec Nicole Sanquer et Patrick Hoel, que je salue au passage, et j'encourage tout le monde à bien comprendre que c'est fondamental pour nous. C'est une équipe. C'est pas mon bilan, c'est le bilan d'une équipe. Si on a réussi à mettre en œuvre ce qui a été fait ces trois dernières années, c'est parce qu'on a su travailler ensemble et se relayer avec le président Fritsch, avec ses ministres. Donc, notre souhait, c'est vraiment d'amener une équipe cohérente, complémentaire à Paris, qui saura parler d'une même voix pour faire avancer tous ces projets urgents pour la Polynésie.
Alors justement, il y a un dossier qui a été porté justement par cette équipe, c'est celui du nucléaire et notamment de la révision de la loi Morin avec la suppression du risque négligeable. Dans votre profession de foi, vous en parlez, vous expliquez que durant cette mandature, vous serez très attaché au suivi de la bonne application de la nouvelle mouture, donc de la loi Morin. Est-ce que d'ores et déjà, parce que ça fait quand même quelques mois qu'elle est entrée en application, cette réforme, est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des retours sur le fait que ça fonctionne, la suppression du risque négligeable?
Alors, cette loi qui a été donc votée fin février a derrière, bien sûr, des arrêtés de décrets d'application qui doivent être mis en œuvre. Donc, ces décrets sont en cours. Vous savez que Krishnath, qui est le président du CIVEN, est venu en Polynésie, d'ores et déjà, malgré ce contexte électoral. Il est venu. L'État souhaite que nous puissions enfin sortir de cette situation pour rapidement indemniser toutes les victimes. Donc, vous savez également qu'il y a une commission de suivi qui a été créée, qui devra faire un rapport parlementaire, parce que ce sont essentiellement des parlementaires, mais aussi des techniciens, et qui pourront éventuellement aménager, affiner le dossier. Cela n'empêchera pas le CIVEN de travailler. J'ai pu avoir discuté assez longuement avec les deux sénateurs, avec le président du CIVEN. L'objectif est de tenir très rapidement, dès la fin de ces élections, un premier comité. L'objectif, je l'ai vu d'ailleurs, vous avez vu que le comité de suivi a été renouvelé, le comité de suivi du CIVEN a été renouvelé récemment. Les choses continuent. Le souhait véritablement, je pense, de l'État maintenant, en tout cas, ils ont entendu le message qui a été porté haut et fort, mais pas seulement par nous, par l'ensemble de la Polynésie, par les associations, parce que c'est un dossier transpartisan, par tous les partis politiques, mais aussi par les relais nationaux. Il faut pas croire, il y a de nombreux députés, ils sont plus d'une centaine à s'être bougés en vue de cette modification. Des présidents de commission, le président de groupe, l'ancien président de groupe du PS est venu lui-même siéger ce jour-là et apporter tout son soutien. Donc, avec aussi les députés ultramarins, bien sûr. Et je voulais remercier leur rendre hommage, Victorin Lurel et Ibrahim Aboubakar. Mais il y a vraiment eu de nombreux soutiens très forts, très marqués pour faire avancer ce dossier. Donc je suis convaincue que cette année sera une année qui propice au démarrage très concret des indemnisations.
Un dernier sujet, Maïna Sage, et on clôturera cette interview qui s'est invitée véritablement dans cette campagne électorale, c'est celui de la moralisation de la vie politique. Si vous êtes élu, vous serez sûrement sollicité pour voter cette loi. Est-ce que c'est nécessaire, justement, cette moralisation de la vie politique, selon vous?
Vous savez, malheureusement, quand il y a quelques mauvais exemples, ça entache tout le monde. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident de porter aussi cette image souvent des politiques. La population souhaite qu'il y ait plus de transparence, souhaite qu'on assainisse la situation, ce que je peux comprendre. Et donc, je conçois aussi ce message très fort qui est envoyé de dire à la population, vous voyez, le premier texte que l'on porte, c'est ce texte-là. C'est aussi un message qui nous fait comprendre à quel point les raisons de cette désaffection sont quand même beaucoup liés à ça. Et c'est sûr que lorsque un électeur vous fait confiance et qu'il vous peut parfois constater des dérives, ben bien sûr que sa confiance est ternie. Et donc c'est notre rôle de retrouver cette confiance et d'être digne du mandat qu'on nous donne. Donc moi je comprends ce texte, je le soutiens. D'ailleurs le président Édouard Fritsch l'a déclaré hein, sur les médias hier soir. Après il faut faire preuve simplement de bon sens. C'est-à-dire que tant qu'on tombe pas dans la démagogie, dans des travers, moi je soutiendrai, voilà, avec sans aucun problème.
Alors vous le soutiendrez quand bien même il toucherait votre parti politique, puisque vous avez parlé d'Edouard Fritsch. Si une loi interdit un candidat de se présenter s'il a un casier judiciaire, ça peut toucher justement quelqu'un comme Edouard Fritsch.
C'est vrai. Oui, et d'ailleurs il a lui-même déclaré hier soir en disant que malgré tout il soutiendrait ce texte.
Très bien. Maïna Sage, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce midi dans ces conditions quelque peu perturbées donc par l'annulation, je le rappelle, de Moana Greg pour ce débat. Je vous rappelle que cette interview sera disponible en replay donc dès cet après-midi sur le site de radio1.pf. Merci Maïna Sage.
Merci à vous, merci à Radio 1 et à tous ceux qui nous ont suivis ce midi.